La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Le Duo et Boris Spino. Prise de son assurée ce soir par Bernard Lagnel, réalisation Daniel Finot. Ce soir, Corinne Rondeau et Florian Guettet se font face à notre affiche Jardin Infini de Giverny à l'Amazonie, au centre Pompidou-Metz, Olga Picasso, au musée Picasso Paris. Et puis nous évoquerons aussi plus rapidement l'exposition Maurice Denis, Eugène Delacroix de l'Atelier au musée Delacroix à Paris, et l'exposition consacrée à Mehdi-Georges Lalou à la galerie Rabouan-Moussion à Paris également. Vers 21h20, Xavier Martini nous entraînera dans le petit salon pour parler des rapports entre l'art contemporain et les jardins. Et puis bien sûr, encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour le spectacle Le Pays de Nod de F.C. Bergman. Ce sera à la Grande Halle de la Villette à Paris. Place à gagner pour la représentation du mercredi 16 mai à 20h30. Direction Metz pour le Centre Pompidou, une nouvelle exposition autour du jardin. Après celle toujours visible au Grand Palais, intitulée Jardin Infini de Giverny à l'Amazonie, l'exposition rassemble environ 300 œuvres de la fin du 19e siècle à nos jours. Commissariat assuré par Emma Lavigne et Hélène Meisel, quand son titre l'indique, le parcours souhaite ouvrir la clôture du jardin et le présenter comme un territoire infini. Entrons dans le jardin. Enfin non, il ne faut pas entrer dans le jardin à Metz, parce que le jardin est partout, Corinne Rondeau, il est infini.
Ah oui,
il n'y a plus de clôture.
Mais par quel bout prendre le jardin, puisqu'il est infini?
On ne peut plus y entrer, on ne peut pas en sortir.
Ah, je ne sais pas, c'est une bonne question, j'aurais dû me la poser, peut-être que j'aurais mieux...
Mais je vous la pose.
Eh bien écoutez, je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je dirais, c'est que le premier étage, qui est le début de l'exposition, nous accueille dans une sorte plutôt de pénombre. On est dans une clôture, là, pour le coup, vraiment. C'est pas clinquant, c'est pas vert. Donc, on est plutôt dans la clôture, oui. Notamment avec une grosse expo. Enfin, il y a une grosse vidéo de Parreno qui a un côté science-fiction avec deux lunes qui vont se lever, une terre qui brille un petit peu, on ne sait pas quoi. Et puis une infrabasse énorme qui crée une sensation, une grande vibration dans votre corps pour se dire la dimension de cet étage est tellurique. Alors, votre rapport à tout ce que vous allez voir va être justement sans doute cette terre. Et effectivement, on a des salles où il y a un Richard Long avec un dispositif circulaire de pierre, mais il y a aussi les terres, les sols du buffet. Mais et il va y avoir aussi quelque chose d'un autre ordre qui va ressembler beaucoup plus à de la botanique, avec un certain nombre de planches. On a des photographies de station. On a donc un rapport à la fois scientifique sans l'être tout à fait, un rapport esthétique sans tout à fait l'être, mais en même temps, dans le début de cette exposition, si vous prenez l'exposition par la droite, vous verrez quand même un accrochage que moi j'ai trouvé par ailleurs très serré, très fermé, assez claustrophobique. J'ai trouvé que le rapport encyclopédique, qui est tout à fait assumé à la fois dans le catalogue et dans l'exposition, par son côté maniériste, puisqu'il fait partie d'une vidéo de Laurent Grasso au parc, au bois de Barmoz.
Comment s'appelle-t-il?
Barbizon? Non, Beaumarzeau, voilà.
Beaumarzeau.
Voilà, les monstres, vous savez, ce jardin qui a été retrouvé plus tard. Donc, il y a une vidéo de 50 minutes de Laurent Grasso qui rappelle justement la dimension mystérieuse. Alors, le maniérisme, donc, dans sa vision encyclopédique, qui est donc assumée, donc, ça égrène dans beaucoup de salles un certain nombre de photographies, de planches. Alors, on est perdu dans cette forêt de cygnes. Donc, ça peut être à la fois agréable pour un visiteur. Je ne l'ai pas perçu de manière très agréable, parce que j'ai toujours une perception personnelle du jardin ou de tout ce qui s'y rattache de manière très lumineuse. D'ailleurs, lorsqu'on rentre, on a un bonnard, un intérieur avec un mimosa, c'est un tableau que j'aime beaucoup. Et à côté, on a une pièce de pigment jaune de Parmigiani. Et donc, en fait, là où on attendrait du pigment, de la lumière, du solaire, il y a un refermement du rapport à l'œil. Alors, c'est vrai que cet étage, il a une manière de vous dire votre œil est un œil de travail sur les détails, d'être justement dans ce rapport des petites choses comme on peut l'être dans un herbier, par exemple. Donc, ça appelle quelque chose d'une sensation et des sens, je dirais, oculaires, plus que de la promenade ou de la déambulation, qui sera, elle, dans le niveau inférieur de l'exposition, puisque c'est deux étages. Et ce deuxième étage qui est inférieur, là, est tout ouvert, où on nous propose donc de déambuler dans un espace beaucoup plus grand, avec une scénographie, là, qui est beaucoup plus marquée par un artiste dont j'avais beaucoup aimé les œuvres à la Villa Paloma.
Vous en avez parlé, Daniel Stigman Mangrané.
Absolument. Et j'avais beaucoup aimé ces sculptures qui n'en sont pas comme des rideaux de mailles. Et ils créaient des formes géométriques à l'intérieur desquelles on traversait de part et d'autre. Où c'était la question, où et comment traverser ça. Là, c'est vraiment des zones qui sont opérées, des formes de territoire un petit peu labiles, puisque c'est pas vraiment fermé. Il y a de la transparence, on peut voir les œuvres de l'autre côté. Et puis, il y a un grand dispositif de Roscoe, de feuilles comme des Rorschachs, dans lesquels on doit passer. Donc, c'est un côté enfantin. Puis, on a là des feuilles, des plantations de haricots de Hans Hack, qui s'appellent croissance orientale. Dirigés, qui sont inclinés. Donc, en fait, c'est l'idée de où va le jardin, où va la plante. On n'a jamais le bout de l'expression. Donc là, on a une dimension très, 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 très pragmatique, presque, on dirait, du titre. Je dirais, jardin à l'infini, il y a du concret qui va à l'infini. Alors, moi, je suis très, très réservée sur cette exposition, bien que par ailleurs, je pourrais me dire, écoutez, c'est une exposition qui cherche un peu le mystère, mais au lieu de l'avoir du côté romantique, même si quelques formes nous permettent d'y avoir accès, j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qui est orienté vers l'antinature, cette manière d'assumer que l'art serait contre un anthropocentrisme très fort, en disant finalement l'art c'est ce qui fait délirer la nature, la faire sortir de son sillon, et donc c'est ça qui donne de la culture. Et la culture, ce n'est pas forcément retrouver ni le jardin ni la nature, encore moins la nature, puisque la nature n'a rien à voir avec le jardin ni avec le paysage, d'un point de vue philosophique. Mais là, je redonne la parole
à Florian Guettet.
À Florian Guettet, car je parle beaucoup trop.
Bon, je vous laisse faire. Alors, je vous laisse passer la parole à Florian Guettet, en effet.
Mais moi, je pense que c'est quand même une exposition auquel on peut accorder le mérite d'avoir un parti pris scénographique, curatorial assez fort par rapport, effectivement, à l'exposition au Grand Palais, dont j'avais ici dit tout le bien que je pensais, mais qui est plus académique, qui répond plus à des attentes. Il y a quelque chose d'un peu moins surprenant, alors que là, finalement, à Pompidou, on a quelque chose de très marqué. Alors, effectivement, on se retrouve pas dans le jardin dès le premier niveau. Moi, j'ai senti plutôt qu'on était sous terre, en fait. Effectivement, c'est une pénombre, mais c'est même plus que ça. C'est très racinien, c'est très chtonien, on est vraiment sous terre. Et on a un premier étage qui est vraiment dans la prolifération, dans la profusion, dans effectivement, alors pour le pire et le meilleur, même si souvent, moi, ça m'a déconcerté. Et puis, un deuxième étage qui est effectivement beaucoup plus aéré, avec des grandes installations. Alors, si on revient sur l'entrée, en fait, moi, c'est vrai que j'ai été d'emblée déstabilisé par les rapprochements, les voisinages qui sont faits dans ce jardin-là. Alors, le Richard Long, je trouve qu'il a besoin vraiment de respiration, et que là, il était contenu. Alors, on essayait de trouver des formes d'analogie formelle avec les mandalas qui étaient sur les côtés, ou alors avec les sculptures de Fontana. C'est vrai qu'on a un peu moins l'habitude de voir sous cette forme. Mais moi, je trouvais que ça se répondait finalement assez mal, et que ça venait plutôt contenir les objets plutôt que les ouvrir sur un infini, qui était un peu la promesse, en tout cas, du titre. Et c'est vrai que ce titre, moi, il m'a induit en erreur deux fois. Donc d'abord par cette promesse d'infinité que je trouve pas forcément tenue, en tout cas sur ce premier étage. Et puis parce que de Gilles Vernis à l'Amazonie, on a l'impression quand même d'un ancrage dans quelque chose d'assez concret, d'assez réel, voire même dans quelque chose d'une histoire de l'art. Sauf que là aussi, on n'emprunte pas du tout ce chemin-là. Il me semble que le parti pris, qui est aussi le risque de cette exposition, c'est d'avoir fait du jardin un motif imaginaire, de voir comment il s'était inscrit dans les discours sur la modernité, comment il avait pu influencer les artistes, et non pas de le prendre comme un lieu concret, comme un... Donc moi, j'ai un peu manqué de concret, je trouve. Mmh. Voilà, pour le dire très simplement. Alors, Corinne, vous avez rappelé effectivement cette sorte de faux rapprochement qu'il y avait entre Parmigiani et le
Bonnard.
Mais il y a en fait plusieurs fois on se retrouve dans ces formes de discordance là. Moi, je trouve que ce qui m'a le plus gêné, c'est d'avoir voulu mettre des dispositifs d'extérieur en intérieur, et du coup de les avoir un peu défonctionnalisés, d'avoir enlevé un petit peu toute leur saveur. Je pense au jardin secret de Thierry Cordier, donc une sorte de jardinière à taille humaine, mais alors présentée là entre quatre murs, c'est vrai que c'est un petit peu de mal à vivre. On a eu mal à s'y projeter. On ne peut pas rentrer dedans. Et puis le banc de Valesca Suarez, pareil, qui est un banc normalement pris dans une installation beaucoup plus large, et qui là est mis face à un film entre quatre murs, qui perd un petit peu sa saveur, quoi, on va dire. Entre tout ça, il y a quand même quelques pièces, moi, que j'ai aimé beaucoup voir. J'ai adoré la machine éventail de pollen de Rebecca Horn, même si je trouve qu'elle n'a pas été présentée effectivement à sa juste valeur, parce qu'elle est un peu mise entre deux pièces, comme dans une sorte de, pas de couloir, mais d'angle, qui lui rendent pas vraiment justice.
Vous pouvez la décrire, cette pièce ?
Oui, alors c'est donc dans les machines très minimalistes de Rebecca Horn. En fait, c'est un petit mécanisme qui porte des sacs, des bourses de pollen, pour le coup très lumineuse, et qui, quand elle s'ouvre, dessine une forme d'éventail comme une roue de pan, et qui vient rendre métaphorique, on va dire, cette séduction ou ce processus de pollinisation, de sexualisation du végétal, que j'ai trouvé particulièrement prenant. Moi, je me suis vraiment attardé dessus. Plus anecdotique en face, on a des pièces qui prennent beaucoup plus de place, mais qui racontent beaucoup moins de choses que celle de Rebecca Horn. Par exemple, la plateforme d'Isamu Noguchi pour Martha Graham. C'est vrai que quand on la voit pas activée, du coup, on se retrouve avec une forme de scène vide, un peu, oui, gadget anecdotique, qui, à mon avis, prend beaucoup de place pour rien. Mais ça n'empêche pas quand même de pouvoir déambuler dedans. Effectivement, la déambulation est un peu plus organisée dans le deuxième au deuxième niveau, mais là, je trouvais ça très inégal, et il y a un jeu d'échelle que j'ai pas bien compris, dans lequel je me suis un peu perdu. Par exemple, vous avez un aquarium donc de Damien Huyghe, de Pierre Huyghe, pardon, qui sont vraiment les traditionnel de sa série. Donc c'est une référence au bassin des nymphéas. Ça a la particularité de se rendre opaque par une sorte de diffusion d'une fumée marine. Donc le principe est assez contemplatif, mais ça fonctionne. Sauf que positionné là entre trois grandes installations, mais il devient tout étriqué, et il devient une sorte de d'attraction, un peu comme les machines à grappins dans les fêtes foraines. Enfin, moi, ça m'a rappelé un petit peu ça. Et du coup, ça perd de son ampleur. Je trouvais que ça perdait vraiment son ampleur. Et puis, il y a des pièces qui, moi, m'ont un peu laissé sur ma faim. Le labyrinthe de Roscoe, alors, qui par ailleurs est un artiste dont j'aime beaucoup les œuvres, mais qui là me semble un peu gratuit dans sa façon. Donc ce sont des empreintes de fleurs ou de végétaux disposées en sérigraphie comme en sérigraphie sur des feuilles et qui constituent ensemble un labyrinthe dans lequel on peut mouvoir, même pas un grand labyrinthe, mais suffisant pour qu'on puisse y passer 30 secondes. Et bien ce labyrinthe-là, moi je l'ai trouvé vraiment en dessous de la qualité des œuvres de Roscoe par ailleurs. Donc voilà, beaucoup d'inégalités et moi un petit peu perdu dans ce jardin infini.
Corinne Rondeau.
Bah oui, perdu, c'est le mot. Et c'est vrai que le mot d'attraction, chercher à faire attraction, c'est aussi la perception que j'ai eue de cette exposition où j'avais la sensation qu'il y avait quelque chose de volontairement ludique. Et en même temps, en cherchant trop, ne pas faire sérieux avec l'art, ne pas chercher non plus un sérieux ou une dimension scientifique à l'exposition, ou trop artistique et esthétique, c'était un entre-deux dans lequel, moi en tout cas, j'ai eu beaucoup de mal à circuler. C'était trop fermé au premier étage, trop ouvert à l'étage inférieur, et que le battement nuit-jour, qui est aussi une manière de faire un cycle, hein, puisque c'est aussi le cycle des saisons qui est en jeu, la manière comment peut-on polliniser cette dimension de l'infini et du jardin. Moi, je suis d'accord que ça fait attraction, et je suis pas du tout convaincue, d'ailleurs, là on a le Ernesto Netto qui nous accueille dans la nef
très grande installation.
Alors, moi, je n'aime pas Ernesto Netto, déjà, donc...
C'est monumental.
Voilà, donc c'est monumental, mais à l'étage inférieur, là où c'est tout ouvert, on a une installation aussi où on peut s'asseoir, il y a des odeurs, il y a des épices, il y a des pierres semi-précieuses, apparemment ça libérerait nos chakras. Bon, alors c'est le genre de truc que je pars en courant.
Ça n'a pas libéré vos chakras.
Non, moi ça me les referme, si vous voulez. Donc alors très bien, parce que je pense que c'est aussi dans l'air du temps, que ça fait partie d'une heure, d'un rapport à des formes participatives où on va chercher aussi la convivialité dans la paix, la contemplation. Alors évidemment, le jardin ou le paysage se prête évidemment à la notion de contemplation. Ici, la question de la contemplation est absente pour moi de l'exposition. Mais évidemment, c'est pas forcément ce que cherche le commissariat ni la scénographie. Je pense que c'est chercher à faire des territoires qui soient repris par des dimensions proliférantes à travers l'encyclopédie que moi je vois vraiment. Et c'est d'ailleurs assumé dans un des textes d'Emmanuel XV concernant justement le rapport encyclopédique, la pensée encyclopédique maniériste, source inépuisable d'objets et de thèmes proliférant, c'est une citation qu'il fait de Eugenio Battisti. C'est parfaitement clair dans l'exposition au premier niveau. C'est beaucoup plus éclaté au niveau inférieur. Mais moi, j'avais... Alors, si Florian a été perdu par... Il a été mis en défaut par le titre de l'exposition, moi, je lui ai trouvé son sous-titre, c'est de l'infertilité à l'artificialité. C'est pas inintéressant, parce que d'un coup, c'est comment peut-on continuer à produire des formes qui sont quand même très anciennes. La question de la nature qui se dissocie du paysage, c'est quand même les Grecs que ça commence, avec le cosmos. La dimension cosmogonique est évidemment présente dans l'exposition, que ce soit avec les vidéos même de Kusama.
Oui, Kusama.
Kusama. Ou alors, effectivement, Parreno, dont je parlais tout à l'heure. Ou même German Derek avec... je me suis trompée.
Derek German.
Voilà, c'est ça. Avec son... Vous savez que dès qu'il apprend qu'il est séropositif, il s'installe dans le sud du Kent et dans une zone où il y a une centrale nucléaire. Bon, ben, il va vivre en ermite, là. Et il va faire une vidéo qui est, bon, on va dire un petit peu... comment dire, à la fois vide et pleine de poésie, mais c'est un désert aussi. Donc il y a ces moments comme ça qui peuvent nous surprendre, mais je trouve que effectivement la réflexion qui pourrait y avoir et qui aurait pu être plus tenue, qui m'aurait intéressée, parce que je me suis sentie perdue du point de vue simplement de l'envie, de la perception, je dirais tout simplement, c'était d'avoir peut-être quelque chose de plus radical sur comment peut-on encore produire. Si on décale tout l'anthropocentrisme, et je pense par exemple à tout À Coudo, l'installation du jardin carnivore, où on a des morceaux de corps dans un jardin. Bon, voilà, c'est quelque chose d'une ruine aussi de l'homme qui est en train de se jouer dans une époque où on se pose des questions d'écologie, où on se pose des questions de culture au sens très large. Donc, il y a tout ça très éclaté. Et moi, je suis quand même extrêmement perdue, même si je reconnais tout de même la volonté assumée et affirmée d'une théâtralisation. Vous parliez peut-être de scène tout à l'heure, Florian, ou quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, une scénographie assumée. Je trouve qu'il y a une volonté de vouloir faire scène. Mais c'est, pour moi, il manque, de mon point de vue, un embrassement du spectateur où il aurait pu à la fois et respirer, et en même temps être contemplatif et en même temps penser, si j'ai trouvé quelques pièces intéressantes.
Oui, mais à vous écouter, vous parliez tout à l'heure d'encyclopédie, de cette volonté-là, moi j'ai plutôt l'impression à vous écouter d'un catalogue, ce qui n'est évidemment pas tout à fait la même chose.
Non, c'est plutôt la recherche d'un désordre. Et ça aussi, oui, c'est assumé par le...
Avec l'énumération de tous les possibles dans les formes et dans les regards.
Ça, c'est un trait malheureusement très contemporain.
Ça, je dis catalogue, c'est peut-être un peu péjoratif, mais c'est un peu ce que j'entends quand même. Moi, j'ai pas fait le voyage à Metz, Florian Guettet, pour finir là-dessus.
Je crois que tout le paradoxe est là aussi. C'est à la fois comment le jardin peut traverser des imaginaires, des cultures, des temps très différents et donc faire communauté. Et en même temps, on se rend compte que chacun a une vision très particulière de ce jardin. On passe du jardin naturaliste, scientifique, très objectivé, au jardin secret, intime, que tout le monde a dans sa psychologie intérieure, on va dire. Donc, tout ça donne une apparence d'éclatement. Et ça a du mal à coïncider, je crois, que par exemple, le Crashberg, qui est, quand je parlais d'ailleurs des différences d'échelle, là aussi, ça se sent. C'est-à-dire, on a un petit Crashberg qui pourtant méritait sans doute d'avoir une place plus monumentale. Du coup, il dialogue très peu avec le Ernesto Netto, qui est juste derrière, qui effectivement lui-même est revenu à une taille humaine, alors qu'il a l'habitude du monumental, et c'est vrai que ça marche moins, parce que ça fait un peu sur-mesure pour cette exposition-là. Cela dit, je reviendrai juste pour rendre justice quand même à un point, il y a quand même des moments contemplatifs, même si c'est... il y a quelques œuvres contemplatives, moi je trouve qu'il y avait quand même une façon d'exposer ce fantastique naturel, de montrer les bizarreries de la nature et comment ça pouvait inspirer formellement les artistes. Alors ça va évidemment atteindre son paroxysme avec donc Haeckel et Gallet pour les planches naturalistes, mais aussi avec les surréalistes, Marc Cerns, qui va se prolonger, on va dire, dans les animations en 3D de Carl Simms. Et puis moi j'ai quand même découvert pionnière de l'abstraction que je ne connaissais pas, Ilma af Klint, qui rappelle Georges O'Keeffe, qui est juste à l'étage en dessous. Et puis, je trouve que le Tillman, c'était pas si inintéressant. J'ai découvert aussi cette série de Fleischer & Weiss. Là, on est vraiment sur du pur contemplatif, donc des séries de photographies comme ça par montage ou collage.
Corinne Rondeau opine un petit peu. Juste pour dire une dernière chose, l'exposition ai-je lu se déploie hors les murs. Il y a des jardins aménagés dans la ville de Metz. Est-ce que vous avez eu le temps d'en voir l'un ou l'autre?
Non, il y a le Louis Weinberger, surtout, qui est devant.
Peter Hutchinson, François Martigues, donc Louis Weinberger, c'est devant. Ouais. Pompidou, donc ça vous l'avez vu, mais oui. Il y en a d'autres dans la ville. Il y a aussi un catalogue dont la graphiste Fanette Mélier a conçu l'ordonnancement. Mm. Pas convaincu, Corinne Rondeau?
Du tout.
Florian Guettet?
Très étrange choix.
D'accord. Oui, j'ai trouvé ça. Allez découvrir par vous-même. Et puis, il y a une nouvelle collection qui est lancée par le Centre Pompidou-Metz. Et du coup, c'est le premier volume, Anthologie de textes d'artistes sur les jardins.
Oui.
Bon, d'accord, Corinne.
Oui, je l'ai acquis. J'aime beaucoup les anthologies, donc je suis ravie. Je le trouve un peu cher pour un livre de poche, mais je pense que c'est parce que ce sont les droits des textes qui ont dû coûter cher. C'est écrit un peu petit, donc il ne faut pas avoir les yeux fatigués, mais voilà. Donc, moi, je suis toujours pour les anthologies.
Alors. Bon, si vous êtes pour les anthologies,
ben oui, parce que ça
vous
fait aller vers le corpus après.
Effectivement, 22,90 €, tout de même. Bon. Le Jardin Infini de Giverny à l'Amazonie, c'est au Centre Pompidou-Metz, et ça dure jusqu'au 28 août.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et à suivre dans La Dispute, Olga Picasso, Maurice Denis, Eugène Delacroix, Mehdi Georges Lalou. Avant cela, Xavier Martinet qui nous invite, il est bien gentil, dans le petit salon.
Mmh.
Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir.
Allez, ce soir, dans le droit fil de notre première dispute, l'art contemporain prend l'air.
Il prend l'air dans les jardins, mais je vais faire un petit détour d'abord. Je vais vous emmener au musée, puisqu'on ne peut pas ne pas noter cette multiplicité des expositions en ce moment qui veulent représenter aux contemporains les classiques du paysage ou des jardins. Outre-messe, chacune de ces expositions a son parti pris muséographique et scénographique, et le spectre est assez large. Ça va de jardin au grand palais, vous en parliez, Florian, dont la sobriété du nom tranche pour certains critiques avec l'éclectisme de son propos, jusqu'à la très classique, mais ambitieuse au-delà des étoiles, le paysage mystique, exposition au musée d'Orsay qui présente une centaine de paysages d'Odilon Redon, de Monet ou de Mondrian, au contact de peintres nord-américains. Une exposition classique, mais pas scolaire, avec une grande portée spirituelle, le juge en tout cas Valérie Odos dans Culture Box. Voilà donc deux grandes expositions, d'autres plus petites tentent des hybridations muséographiques. Le musée de la vie romantique à Paris mise, lui, sur Pierre-Joseph Redouté, ancien graveur et peintre vallon qui travaillait pour les botanistes à l'époque. On l'appelait le Raphaël des fleurs, une exposition qui s'appelle Le pouvoir des fleurs, 250 peintures ou dessins floraux. Et vous avez peut-être inconsciemment une image de ces fleurs pâles comme si elles mouraient. C'est un peu le classique du genre et du 19e siècle. Mais hybridation, car le musée leur a adjoint un dialogue avec des œuvres contemporaines ad hoc, ce qu'il affirme être une première en France, affirme ce musée, donc qui se plie, on le voit, en quatre. Et puis les titres accrocheurs se multiplient à côté du Raphaël. Il fallait aussi le prophète, le premier des impressionnistes, pour qualifier là Camille Pissarro, dont 60 tableaux sont présentés au musée Marmottan, mais aussi à Pontoise et au musée du Luxembourg, qui annonce des dessins aussi spectaculaires que peu connus. Enfin, il faut le noter aussi, le site Exponaut rend hommage à l'accrochage à la fois didactique et surprenant de petit format d'Odilon Redon au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, une exposition au titre suggestif, La nature silencieuse, qui a convaincu la journaliste Agathe Lauréamont, avec des tableaux pleins, dit-elle, d'un silence omniprésent, seulement troublé par le vent agitant les branchages d'un orme ou par le cri d'un épervier. Voilà donc sept expositions en même temps consacrées à la nature qui rivalisent d'inventivité. On reste dans la figuration paysagère ou florale au 19e siècle, mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'efforts pour renouveler le propos. Et puis l'exposition de Metz, vous en parliez, entend montrer que l'intérêt pour la nature ne s'est pas perdu. À l'aube du 20e siècle, affirme le musée, la quête symboliste des origines du monde contamine les arts plastiques. Alors plutôt que le paysage, ce sont là les modèles, disons, du regard microscopique, vous en parliez aussi. Enfin, c'est vrai, le jardin comme matériau finit par s'insérer dans l'art contemporain. Ce n'est pas forcément nouveau, mais on le voit aussi dans les objets et la scénographie au Grand Palais, dans les jardins hors les murs à Metz, puis il y a aussi ce hors des murs de la FIAC dans les parcs de la capitale. Deux grands jardins aussi sont devenus des véritables parcs artistiques, deux institutions notamment qui prospèrent depuis 10 ou 15 ans en France, le Festival international des jardins de Chaumont qui accueille dans son exposition en ce moment Flower Power des artistes contemporains, comme une vidéo de Davide Caiola, cet Italien qui vit à Londres, et puis le domaine aussi de Kerguéhenneg, bien connu maintenant en partenariat avec le FRAC et d'autres institutions nationales, et puis plus petite aussi, mais peut-être significative, le succès depuis 5 ans de cette biennale qui s'appelle XLR, relatée par la Nouvelle République en Indre-et-Loire, 72 artistes, quand même 500 œuvres monumentale qui se visite en se baladant. Ceci au point que le jardin aurait remplacé presque l'opéra dans l'ordre des arts. En tout cas, c'est l'œuvre d'art totale pour le populaire du centre qui évoque l'exposition au Grand Palais. Alors voilà, que ce soit pour revaloriser la figuration, que ce soit pour un essai scénographique ou réintégrer du végétal à la fois sa grâce et sa puissance, comme le dit le Festival de Chaumont, comment expliquer cette extraordinaire diversité en même temps des expositions un peu partout? Et est-ce autre chose, selon vous, qu'un phénomène saisonnier?
Alors bah, visiblement, vous avez fait un sacré rappel, Xavier Martinet, c'est plus que saisonnier, puisque cette saison au sens septembre-juin, on va le dire, parce que beaucoup d'expositions qui s'intéressent de près, souvent de loin un peu, à cette question-là, de jardin, de nature, d'extérieur. On peut citer quand même aussi les pionniers, parmi lesquels Vassivière en Limousin, le centre d'art fameux, qui a mis en avant aussi ces jardins de sculpture, avec Dominique de Marchaise, avec ensuite, vous allez me rappeler le nom du Guy Tortosa, voilà, bah, qui est toujours présent et intéressé par cette question de l'art dans la nature ou avec la nature, et puis parler de la Biennale de Mel aussi, qui est aussi un lieu important de ce type d'expression. Flower Power, on va y aller, Corinne, on va ouvrir nos chakras. certainement.
Oui, ouvrons nos chakras. Non, en tout cas, c'est pas du tout saisonnier. Puis la recherche sur les jardins est très... est très, très soutenue depuis une dizaine d'années en France, et puis elle n'est pas neuve, hein, puisque quand même, l'école des jardins à Versailles, c'est paysage. Vieux.
Ouais.
Ça vient de la chaire d'horticulture, je crois, du 19e siècle, donc c'est une vieille chose chez nous, et puis bon, ça on le sait, les jardins à la française. Donc qu'on s'intéresse davantage ou que ça devienne plus visible, je pense qu'on est dans le terrain, enfin on est dans l'espace de pensée de que va devenir la terre. Voilà, il faudrait juste rappeler que notre terre est une terre d'agriculture. Ça les chercheurs sur le jardin le savent. Mais depuis au moins les années 90, la question du paysage est très stimulée, stimulante en France. Enfin, il y a eu un livre qui a fait date, qui était sous la direction de François Dagonier, qui était mort du paysage. C'était dans les années 80, mais Alain Roger a écrit ses traités de petits traités du paysage, je crois, et puis aussi histoire du paysage en France dans les années 90. Donc là-dessus, ça s'est vraiment embrayé, mais pas que. Je veux dire, on a le grand, pour moi, Augustin Berg est un des grands penseurs entre la géographie et la question du paysage aujourd'hui, puisque le rapport est botanique-paysage, mais aussi géographie, même la pensée même du paysage est originaire. Et passer de la géographie à quelque chose d'une discipline plus large, qui est l'art, l'histoire de l'art. Voilà. Donc, il y a aujourd'hui des réflexions sur l'architecture des jardins, mais qui sont en rapport aussi à toute la pensée urbanistique aujourd'hui. Il n'y a pas que le paysage, parce que c'est ouvert. C'est aussi dans quel environnement on vit. Donc, le clivage art traditionnel et très pauvre, nature-culture, n'existe plus. Enfin, il est plutôt lié à environnement-paysage, c'est-à-dire dans quel écosystème vivons-nous, de quelle manière on produit des formes, voilà, comment on les pense, comment on les vit. Donc, évidemment, c'est pas du tout saisonnier, c'est pas du tout artificiel. Cette manière de manifester un dehors et un dedans, c'est aussi pour décloisonner quand même des formes institutionnelles d'exposition aussi. Je rappelle que le Land Art, là c'était Gilles Tibergien, avait écrit un formidable livre dans les années 90 aussi, qui n'a pas été réédité. Je trouve ça regrettable, parce que je trouve que c'est un de ses meilleurs livres, sinon le meilleur. Sur le Land Art, qui était vraiment, voilà, le Land Art, c'était quoi? Des artistes et des conceptuels qui sont sortis de la galerie en disant non à l'institution au White Cube, et donc de le mettre dans des lieux où personne ne va, puisqu'il fallait le voir d'avion, par photo, c'était le rapport du site et du non-site. Donc il y a une vraie réflexion, si vous voulez, du territoire qui dépasse largement le pur événementiel. Voilà, on va fleurir les villes qui sont elles-mêmes fleuries. Je suis sûre que Metz est une ville fleurie, vous savez, vous rentrez dans les villes fleuries.
Le nombre de fleurs.
Voilà. Donc voilà, c'est pas la question de la fleur, c'est pas la question du jardin, c'est aussi effectivement prendre conscience de quel environnement vit-on, et quand on n'a pas la politique écologique qui va avec, bah, on trouve les moyens aussi de réintégrer, je dirais, une forme beaucoup plus culturelle de le rappeler, bien qu'effectivement il y ait une recherche très, très intense depuis, je le dis, au moins le début des années 2000, même si elle s'est déjà mise en place à la fin des années 80.
Florian Guettet, sur cette question, sur ces questions.
Oui, mais je souscris plutôt à la vision de Corinne, même si c'est peut-être pas inintéressant de se demander si, même si c'est un sujet ancien, qu'est-ce qu'aujourd'hui de nouveau vient pointer dans cette problématique-là. Est-ce qu'on en a enfin fini avec la vision romantique de la nature, et est-ce qu'on arrive aujourd'hui, à l'heure de l'anthropocène, à renouveler les questions? Effectivement, il y a une question de rupture avec l'anthropocentrisme, avec des questions écologiques, avec effectivement, comme les politiques sont toujours en retard, ben il faut bien qu'il y ait des lanceurs d'alerte que sont ces artistes. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, notamment dans le discours de Gilles Clément, c'est de proposer le jardin ou le paysagisme comme une sorte de contre-modèle à la mondialisation telle qu'elle est proposée aujourd'hui. C'est pour ça qu'effectivement, elle fait partie de la réflexion urbanistique depuis les années 70, qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes en emparent. On a parlé de Louis Weinberger tout à l'heure, mais c'est un exemple des plus flagrants. Mais c'est vrai que ce motif ou ce territoire du jardin a quelque chose d'assez cosmopolite à transmettre, comme si effectivement il était au-delà des frontières et qui permettait des formes de communauté. On a aussi tous ces jardins partagés qui sont maintenant qui fleurissent dans les villes depuis les années 2000. Je crois qu'on a une plus de centaine à Paris. Donc ça aussi, ça crée quand même beaucoup de dynamisme, ça crée beaucoup d'échanges. Et puis ce lien à la terre qui finalement est peut-être pas si ringard que ça et qui empêche peut-être d'errer trop facilement dans des mondes virtuels ou spéculatif.
Comme c'est bien dit. Xavier Martinet ?
Oui, j'avais quelques petites remarques. Peut-être d'abord la faible exposition, il me semblait en tout cas dans la presse nationale, de ces grandes expositions de jardins en tout cas, qui sont bien relatées souvent dans la presse locale, mais peut-être et pour cause, parce que c'est des expositions qui ne peuvent pas se raconter de manière, vous le disiez un peu Corinne, esthétique, ni vraiment encyclopédique. C'est difficile de savoir ce qu'on vient chercher. D'ailleurs, il n'y a pas de marché pour cet art qui soit végétalisé ou pas, ou alors si peu de toute façon, puisque les jardins se transforment automatiquement en musée. La deuxième chose, quand même, elle me semblait poser un problème esthétique, et encore une fois, vous y faisiez allusion, Corinne, lorsque vous parliez de recherche du désordre, j'ai vu apparaître au moins deux fois dans l'intention ou dans le commentaire de certaines expositions, celle au Grand Palais et celle de Metz, qu'il y avait, en tout cas, dans la recherche d'un rapport à la nature ou au jardin, une volonté de la part des scénographies de briser un peu la linéarité de la progression dans l'exposition. Je ne sais pas si c'est, une recherche nouvelle, mais du moins, on voit qu'il y a là un modèle auquel certains scénographes, en tout cas, s'attachent.
Corinne Ordo ?
Oui, non, mais je peux l'entendre parce que je... En tout cas, je ne sais pas l'autre exposition, mais en tout cas à Metz, c'est certain, la question du désordre est assumée par le commissariat.
C'est le cas, on en parlait aussi.
Ce qui est évident, c'est que quand vous cherchez le désordre, vous ne cherchez pas la clôture, donc forcément vous cherchez à rompre les distinctions. Ça me paraît assez évident, et donc effectivement il y a une question qui se pose depuis un certain nombre d'années, notamment dans l'esthétique, de c'est quoi les porosités. Enfin moi j'aime beaucoup de mal avec ce terme. Par contre, effectivement, faire tomber un certain nombre de distinctions qui, sans doute, la qualité affirmée, en même temps, pour moi, un défaut en termes de spectatrice ou de visiteuse à Metz. Et je pense que c'est un symptôme, en tout cas, dans lequel nous vivons. Et chercher le désordre, c'est aussi se mettre, sans doute, à l'ordre du monde. Hein. Donc, c'est vraiment un symptôme. Je ne critique pas le symptôme, je le constate.
Florian Gaité, pour finir, ce petit salon.
Oui, et puis il y a quand même aussi un autre changement esthétique ou un glissement esthétique qui se produit à travers ce motif végétal, c'est que avant on cherchait quelque chose de très joli dans les fleurs et dans les végétaux. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une vraie présence des herbes folles, des mauvaises herbes, herbes qui servent à rien. Et donc du coup, on n'est plus dans une sorte de vénération que moi j'avais attribué au romantisme, mais je crois que c'est un des restants de ça.
Ouais, ça c'est aussi tout ce qui essaime du côté de la pensée de Gilles Clément. On connaît bien, justement...
Ensauvager la ville.
Notamment. Enfin bon, à l'accompagner, la regarder, être co-auteur du jardin, en tout cas, avec la nature. Entre le jardinier et la nature. Bon, nous on a toujours une clôture, on ferme les portes du petit salon. Pour découvrir les recommandations des critiques présents ce soir, et justement, je regardais la fiche de l'exposition Maurice Denis, Eugène Lacroix, de l'atelier au musée, de très jolies fleurs, hein, très très bien peintes et très bien ordonnées en bouquet, Corinne Rondeau.
Et oui, alors cette exposition... Alors, vous savez, je n'aime pas Delacroix.
Oui, mais je le sais, parce que je vous connais bien, Corinne.
Et alors, Maurice Denis n'est pas
parlons
un
pas de Renoir, alors là, ce serait...
Alors, non. Non, c'est parce que, en fait, Delacroix est un peintre dont la peinture vibre trop. Voilà, et donc j'ai beaucoup de mal
ça
avec
vous
ça,
fatigue.
Mais je suis désormais avec cette petite exposition au musée de la Croix. Je me réjouis de la future exposition qui aura sans doute au Louvre dans quelques mois. Alors cette exposition, dans l'atelier pour le coup, même si c'est aussi dans la partie du musée, on arrive dans une salle où tout est éclaté en termes de forme, d'époque. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette exposition ? Et alors, c'est formidable parce que vous avez le tableau, l'hommage à Delacroix de Maurice Denis, qui fait lui-même écho à l'hommage de Cézanne de Fantin-Latour. Et donc, vous avez une cohorte de peintres autour d'un tableau. C'est le même type de motif. Et à côté, vous avez ces fameux bouquets. Vous avez un de Delacroix et à côté, un de Gauguin. Et puis ensuite, vous avez des œuvres. Alors, il y a des maquettes de l'histoire de l'art français dont Maurice Denis va peindre les plafonds au Petit Palais. Bon, d'accord, très bien. Vous avez l'Odalisque à la culotte rouge de Matisse. Vous avez l'éducation de la Vierge. Et au-dessus, vous avez l'Annonciation de Maurice Denis. Et là, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Vous avez des carnets du Maroc, de la Croix. Vous avez un magnifique Cézanne, incroyable. Et tout ça est un éclatement. Mais en fait, il suffit de regarder entre les fleurs et ce groupe de personnages. Vous vous apercevez que Delacroix, donc, comme je n'aime pas, je ne m'y suis pas beaucoup intéressée, et Maurice Denis non plus, mais que d'un coup, les Maurice Denis, les Vuillard, les Sérusier, les Signac, ont été en fait les petits-enfants de Delacroix. Et entre, effectivement, il y a les Cézanne, il y a les Gauguin, il y a les Van Gogh, il y a tous ces hommes qui ont traversé ou qui ont connu de plus loin l'œuvre de l'atelier ou connaissaient l'œuvre de Delacroix, qui a quand même pas été très, je dirais, soutenu de son vivant et à la fin de sa vie non plus. Et donc là, il y a le livre, en fait, qui marque pour eux cette nouvelle génération de, ils ont 20 ans, le Denis, ils découvrent le journal de Delacroix. Et là, pour eux, c'est une révélation, indépendamment de ce que leur avait transmis leur aîné, Cézanne notamment, qui possédait un bouquet de fleurs qui est dans l'exposition et qu'il avait tout le temps avec lui et dont il fera ensuite lui-même un bouquet magnifique, mais de couleurs vraiment très beaux. On voit qu'en fait, il y a un investissement à travers ce qui est écrit. Et là, c'est l'auteur, l'écrivain Delacroix, qui est reconnu par ses peintres et qui vont eux-mêmes être des auteurs. Et c'est ça qui est assez beau, c'est que ces artistes ne sont pas que des artistes, ce sont des écrivains. Et Maurice Denis, qui voue un culte, je veux dire, une admiration sans borne à Delacroix, à l'âge de 50 ans, fera une cinquantaine de conférences sur Delacroix. Il va être d'une ténacité extraordinaire, car cet atelier doit disparaître après la vente du fonds de la Croix 6 mois après sa mort. Et donc c'est un vrai challenge. On a des lettres qui sont exposées tout ce travail qui aura été fait par Maurice Denis, qui deviendra le directeur. Ils ne pourront pas, avec des ventes d'artistes, d'œuvres d'artistes, ne pourront pas l'acheter, mais ça sera loué. Il y aura la société, donc des amis la société des amis de Jeanne Delacroix, et ce n'est qu'en 2002 que l'État français prendra en charge ce musée et donc l'atelier Delacroix. Donc c'est entre 32 le succès public et toute cette démarche. Donc c'est une exposition formidable parce qu'elle est avec des vieilles pièces, mais en fait elle est ultra contemporaine. Vous allez être perdu, en même temps vous allez retrouver de l'histoire, et en même temps ça vous reconduira au journal de Delacroix, qui est formidable.
Maurice Denis, Jeanne Delacroix, de l'atelier au musée, c'est le titre de cette exposition visible au musée Eugène Delacroix à Paris jusqu'au 28 août. Beaucoup plus près dans le temps, jusqu'au 27 mai, allez à la galerie Rabouin-Moussion pour découvrir le travail de Mehdi Georges Lalou, Florian Guettet.
Oui, Mehdi Georges Lalou, dont je suis le travail depuis quelques années, puis je suis content de le revoir sur Paris, puisqu'il vient d'intégrer cette galerie en automne, et c'est sa première exposition personnelle. Il fait partie de toute une génération de fils d'immigrés, donc il est franco-marocain, avec un père musulman, une mère catholique, donc on a beaucoup maintenant d'exemples de ces plasticiens-là, qui travaillent sur cette double appartenance, avec une forme de d'œuvre métissée à l'image de leur identité, mais lui se démarque par la justesse de ton et l'humour qu'il avec lequel il traite ces sujets, qui restent tout autant graves et assez transgressifs dans leur forme, mais qui sont présentés avec une forme de distance, avec une forme de non-agressivité, voire de douceur, qui nous permet de rentrer dedans d'une manière beaucoup plus, beaucoup moins politique que ce qu'on serait en droit de le faire devant des œuvres de Zulika Zouadebdala, pardon. J'ai un peu de mal sur le nom. En tout cas, sur cette justesse de ton, on a Effectivement des superpositions, donc l'exposition nous invite à une mémoire confuse, donc c'est des télescopages entre des symboles avec une charge symbolique très forte. On trouve donc des autoportraits de lui qui sont des sculptures de bustes de lui avec en équilibre des objets rituels ou culturellement très marqués, un plat à tagine, un encensoir, par lesquels il inverse finalement la construction des stéréotypes, comme si c'était plus l'identité qui reposait sur les déterminismes mais l'inverse. Il y a cette série des Madones aux oiseaux que j'ai beaucoup aimé, où il remplace les figures virginales par des têtes d'oiseaux, donc par un photomontage assez coloré, et qui rappelle évidemment la religion occidentale, mais qui en fait fait référence à un conte persan de manière très œcuménique. Hein, et on retrouve ce même principe dans Divine Comédie, par exemple, quand il traduit des paroles bibliques sur des tapis de prière. Et puis le second trait caractéristique, c'est cette facture très précise, très finie, très achevée de ces pièces. Je retiens notamment un vitrail de photos de soldats algériens qui littéralement proposent de relire à travers son prisme l'histoire de la Première Guerre mondiale, ou puis la très réussie série des Black Madonna, donc des vierges à l'enfant peintes en noir sur noir et qui sont obstruées par des motifs type mouchard à biais. Donc voilà, on trouve vraiment une forme de cohérence plastique entre le noir, le doré et la transparence. Et cette superposition des références me fait penser à un jeu de un bricolage de pensée tout à fait jouissif.
À découvrir cette exposition de Mehdi-Georges Lalou jusqu'au 27 mai à la galerie Rabouin-Mouisson, cette rue Pastourelle à Paris.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Suite de cette dispute art plastique, très peu de temps pour aller au musée Picasso Paris, très peu de temps dans l'émission. Hein, pour l'exposition, elle dure jusqu'au 3 septembre. Donc ça va pour aller voir Olga Picasso, c'est le titre de l'exposition. Olga Kokolova, qui fut danseuse dans les ballets russes avant de rencontrer Picasso. C'était au moment de parade. Je fais très vite, Olga quitte les ballets pour vivre avec Picasso, l'épouser, le 12 juillet 1918. Rue Daru, cathédrale orthodoxe, Apollinaire, Cocteau et Max Jacob qui sont les témoins de Picasso, puis Olga donne naissance à Paul, leur fils en 1921, et puis pendant une quinzaine d'années, Olga va être un modèle important du peintre. Avant la découverte de sa liaison adultère avec Marie-Thérèse Walter, elle part dans le sud de la France. On verra effectivement qu'après 1927, en tout cas début de la liaison de Picasso avec Marie-Thérèse, les représentations d'Olga évoluent. C'est bien ce que veut montrer cette exposition. Dont le commissariat est assuré par Emilia Filippo, Joaquim Pissarro et Bernard Ruiz Picasso, qui présente une sélection de 350 pièces, peintures, dessins, archives et photographies. Nous entrons dans ce musée Picasso Paris en suivant les pas de Florian Guettet.
Alors écoutez, c'est une exposition très classique dans sa forme, très académique, avec un choix d'œuvres et documents présentés chronologiquement et qui vont suivre l'histoire d'amour, en tout cas l'histoire commune, de Olga et Picasso et les diverses modifications de style, de relations entre les deux qui vont s'opérer sur cette période, en gros de 1917 à 1935, ou un peu plus, 36. Alors c'est une exposition importante parce que finalement c'est la première fois qu'on a une exposition qui prend pour thème véritablement Olga, et c'est quelque part lui rendre un petit peu justice puisqu'elle est souvent éclipsée derrière d'autres muses de Picasso, Fernand Olivier, Vaguel et bien sûr Dora Maar. Et elle est souvent présentée comme mal aimée, mystérieuse, etc. Et je trouve que cette exposition corrige cette vision un peu tronquée de la personne. Moi, j'ai vu vraiment trois grosses périodes et trois articulations, on va dire, dans cette exposition. D'abord, les visages de la muse Olga, donc ses portraits au pluriel avec un style assez classique. On sait qu'il revient à la peinture de Ingres, où là, on a des portraits qui sont marqués par la mélancolie, évidemment, de la figure d'Olga, donc figure qui elle est en fait marquée par l'impuissance de son de sa position face à sa famine qui est en Russie et qui est décimée par la guerre, la maladie et qu'elle n'a, dont elle n'a pas d'ailleurs de relation pendant deux ans entre 1717 et 1719. Donc là quelque chose d'assez classique répété alors dans des formes très différentes, des fois ultra réalistes et puis parfois des choses plus élusives ou plus grossières aussi dans les traits. Ensuite, on a la Olga mère qui arrive, donc avec la maternité de Paul. Et là, Olga se transforme en objet domestique. On la représente dans son atelier, dans sa maison, dans les maisons, les multiples maisons de Picasso, puisque c'est le moment de l'embourgeoisement du peintre, à Fontainebleau, à Biarritz, à Jean-les-Pins. Et là, Olga devient presque un meuble, un mobilier parmi les autres. En tout cas, moi, je l'ai ressenti un peu comme ça. Et il y a une forme de déplacement de l'intérêt de Olga vers la figure du fils, Paul, qui est déguisé, présenté comme un personnage central de la famille. Et puis il y a la dernière période qui est pour moi beaucoup plus intéressante, celle qui est proposée à l'étage, où après 1927, qui est donc la mort de la mère d'Olga, qui s'appelle Lydia, et la rencontre de Picasso avec sa nouvelle maîtresse, donc Marie-Thérèse Alter, Olga se change en monstre. Elle devient d'abord une sorte de monstre aux dents acérées, elle devient cruelle, elle est trianguleuse, elle devient douloureuse, brutale. Moi, j'ai surtout retenu, par exemple, le grand nu au fauteuil rouge qu'on va trouver dans la dernière salle, où Olga n'est même plus reconnaissable. Il y a au premier plan une danseuse très imprégnée de courbes assez douces, plus généreuses, et puis elle a une tête assez monstrueuse, comme si Picasso hybridait déjà ses deux figures, celle de son ancienne femme et celle de sa nouvelle maîtresse. Et à partir de là, c'est tout un exercice de défiguration et de presque de comment salir ce souvenir d'Olga, qui est assez cruel, je trouve, assez brutal pour cette jeune femme qui ne va jamais s'en remettre véritablement, puisqu'ils vont certes se séparer, mais elle restera mariée avec lui.
Il ne veut pas divorcer.
Il ne veut pas divorcer.
C'est lui.
Et donc elle reste dans son ombre pendant que lui commence à vivre une autre histoire. Et j'ai trouvé cette fin beaucoup plus effectivement violente. Et cette violence, je trouve, fait du bien au trait de Picasso.
Puis c'est violent aussi pour Olga depuis très longtemps, parce que vous disiez ce retour à Ingres, etc. On l'accuse de tous les maux, Olga. C'est de sa faute si tout d'un coup Picasso quitte les aventures formelles et revient à des choses plus classiques. Après, c'est bien parce qu'il s'est débarrassé d'elle qu'il refait des choses plus intéressantes. Il y a quand même beaucoup de charges qui pèsent contre Olga depuis longtemps.
Oui, ça serait effectivement la cause, l'embourgeoisement, enfin le côté mondain, les portraits mondains, c'est parce qu'elle est elle-même mondaine, etc., etc.
Bon. C'est lui accorder beaucoup de crédit, c'est une toute jeune fille,
quand même.
Oui, mais
il faut quand même se rappeler que Dora Maar était une photographe absolument extraordinaire, des collages incroyables. Quand elle passe dans les bras de Picasso, elle ne fait plus rien quand ils se séparent. Bon, il y a d'ailleurs
le monstre, on sait où il est quand même.
Oui. C'est pour ça que cette exposition est à la fois sympathique dans la mesure où on fait réapparaître une des femmes les moins sur lesquelles on a le moins parlé dans la vie de Picasso. Par ailleurs, je trouve ça d'une misogynie absolue que de devoir finalement affirmer quelque chose de voilà, c'est un peu sa faute. Et en même temps, j'ai juste envie de dire, Picasso était l'ogre qu'on connaît. Il n'a pas attendu d'être avec des femmes pour être déjà un dessinateur et un peintre. Il a quand même commencé tout petit. Oui. Il y a qu'à aller à Barcelone pour voir ses dessins d'adolescents et d'enfance, pour savoir qu'il était déjà là-dessus, qu'il était déjà en train de travailler une ligne, que le fait de certains éléments biographiques... Alors moi, j'ai un dégoût absolu, c'est quasiment presque névrotique chez moi. Je déteste le rapport à la famille, au rapport privé. Donc là, quand nous fêtons les 100 ans de la rencontre du couple, je trouve ça d'un fétichisme absolu. Donc, au secours. Donc, c'est à la fois bien de ramener cette figure au milieu des autres, on va dire. Voilà, c'est le musée Picasso, on ramène tout ça. Je trouve que par ailleurs, il pourrait y avoir bien d'autres choses. Et c'est vrai qu'il y a d'autres... d'autres recherches qui se font aujourd'hui, le catalogue en démontre, pour alléger cette charge quand même auprès de Olga. Je trouve que la dimension effectivement de cette femme qui est soit allongée, soit lisante, dans une dimension très mélancolique, qu'on peut voir sur les photos, sont aussi en contradiction avec des films où elle est très joyeuse par ailleurs. Bon, alors il y a bien quelqu'un qui va dire qu'elle était bipolaire. Hein, bon, donc moi je trouve que cette manière de dire bah voilà en fait la création, c'est pas un dépassement, c'est toujours rattaché à l'éros et le thanatos, toujours rattaché à la libido, ça tombe tellement bien avec Picasso
beaucoup de choses qui étaient rattachées à la libido chez lui. Ça, c'est
oui,
pas
non mais je veux dire la libido c'est une énergie, donc oui, évidemment la libido elle est bonne pour tout le monde. Il faut arrêter un peu avec ça. Moi ça m'insupporte. Par ailleurs, je trouve que cette mâle valise d'Olga Picasso dans ce coin d'un mutisme fou, c'est là où elle a caché, enfin elle a mis tous ses souvenirs. Et je trouve ça d'une très grande force. Et là, il n'y a pas Picasso, il y a cette femme qui a gardé toute cette correspondance, qui a gardé ses photos. D'ailleurs, le petit-fils a récupéré du fond des archives certaines correspondances qu'il ne connaissait pas. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de très fort dans la présence de cette femme, avec simplement ce poids de la mémoire, mais qui est justement un horizon russe aussi. Et quand, je dirais, à la mondanité, ou ce rapport au néoclassicisme, c'est le moment où il rencontre les ballets russes, les Diaghilev, la danse, le corps. Je vois pas pourquoi il y aurait pas un élément non plus chorégraphique et du corps qui ramène Picasso à ce néoclassicisme qu'il connaît, même s'il a été un des pères précurseurs du cubisme et un des acteurs principaux du cubisme. D'ailleurs, plus tard, il y a une femme à la chaise dans les années 20, 1918, c'est du cubisme. Moi, je trouve que par ailleurs, il y a un rapport à... Moi, je déteste cette idée qu'on puisse y retrouver Olga là, ça serait elle ou quoi, puisque d'ailleurs, ils changent les titres. La femme au fauteuil rouge pourrait être Olga. C'est vrai, puisqu'en fait, il y a une manière de déchirer avec les doigts le visage, la partie du visage. Mais si on regarde bien, et c'est pas peut-être faux, si on regarde le vert de Olga au fauteuil, 1917, si on regarde ce fauteuil au rouge et qu'on la voit sur sa photographie antérieurement, les bandes du fauteuil rouge sont la tapisserie derrière elle. Même si c'est en noir et blanc, c'est le même motif. Et le vert est une couleur qui revient effectivement sur certaines femmes et dont je pourrais préciser sans ressemblance que c'est peut-être Olga, mais qui sait.
Merci inspecteur Rondeau. On doit s'arrêter là.
Je cherche à s'amuser en dehors des couples, parce que les couples sont extrêmement pesants.
Olga Picasso, c'est le titre de l'exposition au musée Picasso Paris jusqu'au 3 septembre, un catalogue coédité par le musée et les éditions Gallimard. Et avant de conclure le jeu de la dispute, et ce soir c'est Virginie Le Duo qui va nous rappeler la question d'hier et même nous donner la réponse. Virginie.
Quel film italien du réalisateur Marco Bellocchio fit scandale pour ses scènes de sexe explicites lors de la quinzaine des réalisateurs de 86 à Cannes?
Et c'était...
Alors c'était Le Diable au corps.
Ah oui, bon. On s'en souvient. À gagner ce soir des invitations pour le spectacle Pays de Notes de F.C. Bergman. C'est à la Grande Halle de la Villette. Et on fait gagner les places pour le mercredi 16 mai à 20h30. Quelle est la question, Virginie Le Duo?
Le Pays de Notes, spectacle de la compagnie belge F.C. Bergman, est une reconstitution grandeur nature d'une célèbre salle du Musée des Beaux-Arts d'Anvers. La question, quel est le nom de cette salle?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer au éditeur fc@radiofrance.com. Et toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, la page de la dispute, site sur lequel on peut réécouter cette émission et bien sûr s'abonner à son podcast. Demain, émission musique avec Anna Segalevitch et Emmanuel Dupuis, notre programme Péléas et Mélisande de Debussy, dirigé par Louis Langret, mise en scène Eric Ruff, ce sera au Théâtre des Champs-Élysées. Alceste de Gluck, dirigé par Stefano Montanari, mise en scène Alex Olle de la Führer d'Elbaus, c'est à l'Opéra de Lyon. Et puis le disque Volodos Plays Brahms d'Arkady Volodos chez Sony. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture, 22h15, les discussions du soir. Dans quelques instants, le journal de la rédaction.